Bon, notre invité, il est là.
Il est là.
Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal. Renaud, vous avez sorti ce matin une espèce d'une étude sur les temps d'attente aux urgences. Ça ne s'améliore pas au Québec?
Malheureusement, non. Puis écoutez, ça fait quoi, 40 ans qu'on nous promet élection après élection que les temps d'attente vont fondre, que tous les patients vont enfin être traités. Et malheureusement, ben, ça fait 40 ans que ça donne rien. Donc, ce qu'on a sorti essentiellement ce matin, c'est les données sur les temps d'attente médians dans une urgence. Pourquoi la médiane? La médiane, donc, c'est le point milieu. 50% des patients attendent moins, 50% attendent plus. L'avantage que ça a, c'est que ça représente l'expérience du patient typique quand il se présente à l'urgence. Et malheureusement, depuis 2018, ben, le patient typique, il attend 41 minutes de plus. Donc, on parle de 5 heures et 12 minutes avant de sortir de l'urgence aujourd'hui, versus 4 heures et 31 minutes il y a quelques années.
Mais il y en a des pires que ça, là. Il y a du 14 heures, puis il y a du même plus que ça. La semaine dernière, on a eu un cas 40 heures à l'urgence.
Exactement, exactement. Puis c'est vraiment, ça varie d'une région à l'autre, ça varie d'un hôpital à l'autre. Puis on le voit, je veux dire, juste avec, par exemple, la région de Québec. Ben, un patient qui se présente à Saint-François-d'Assise va attendre 6h27 minutes. Mais quelqu'un qui s'en va au CLSC à Saint-Marc-des-Carrières va être 2h15. C'est sûr, les centres hospitaliers qui ne seraient pas exactement des mêmes types. Saint-François-d'Assise, ça va faire du gros trauma, ils vont pouvoir à peu près tout faire, versus le CLSC qui va stabiliser le patient avant de l'envoyer dans un centre. Mais essentiellement, ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas dans la bonne direction pour les patients du Québec. Et ça ne va pas dans de bonne direction malgré les sommes records que la CAQ dépense en santé. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont augmenté le budget de 24 milliards. On dépense aujourd'hui 66 milliards de dollars, donc plus qu'un milliard par semaine pour les soins de santé. Et malgré ça, les temps d'attente continuent d'augmenter.
Donc, on met du cash, puis là, les temps d'attente augmentent. La CAQ avait dit pourtant qu'on allait régler ça.
Écoutez, tous les partis ont dit depuis 40 ans qu'ils allaient régler ça, mais la seule solution qu'ils ont vraiment ajoutée, c'est plus de centralisation puis plus de dépenses. Et malheureusement, plus de centralisation puis plus de dépenses, c'est la même solution qu'on essaie depuis 40 ans. Ça va donner le même résultat que ce que ça donne depuis 40 ans. Je veux dire, quand on regarde les pays qui fonctionnent mieux que nous, qui ont des temps d'attente plus raisonnables, bien, souvent, ça va être des pays qui vont avoir des systèmes mixtes. On va parler, par exemple, de la Suède, la France, du Danemark. Donc, des endroits qui vont permettre au privé de jouer un rôle en santé. Puis, c'est pas nécessairement parce que c'est privé que ça fonctionne mieux, c'est juste que ça permet un peu plus d'expérimentation, ça permet un peu plus de flexibilité. Je regarde, il y a quelques années, on avait fait un documentaire en France sur le système de santé là-bas. Déjà, il y a une chose qui m'avait fait tomber en bas de ma chaise. Un médecin là-bas nous disait que lorsqu'un patient passe plus que 4 heures à l'urgence, ils n'ont pas le choix de remplir un rapport à la direction locale de santé.
Donc, c'est intolérable. Après 4 heures, là, c'est devenu intolérable, c'est inacceptable.
Exact. C'est vu comme un échec pour le système de santé. Puis là, on regarde au Québec, ben, le patient typique passe 5 heures. Je veux dire, le patient typique a une expérience au Québec qui serait vu comme un échec dans d'autres systèmes de santé. Mais la France a, qui est différent, c'est que c'est un système qui va être universel, donc tout le monde a accès à la santé, mais qui va être mixte. Donc, il va avoir des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, des hôpitaux sans but lucratif, qui vont tous être couverts par l'équivalent de la RAMQ là-bas, mais qui vont avoir différents types de fonctionnement. Mais ce que ça donne, c'est qu'il y a plus de flexibilité. Donc, on peut essayer des nouvelles choses. Par exemple, à Saint-Étienne, il y a des médecins à l'urgence qui se sont rendus compte que une bonne partie des patients qui attendaient longtemps à l'urgence, c'était les cas qui étaient moins lourds. Donc, on appelle les P3, P4, P5, des gens qui ont, par exemple, un bras cassé, qui ont besoin de points de suture. Il y a un besoin urgent qui est là, mais c'est pas un cas de vie ou de mort. Tant de longtemps, c'est parce que ben, les salles qu'ils ont pour les urgentologues, ils sont tous équipés pour faire jusqu'au gros trauma avec un accidenté de la route. Ben, un, ça coûte cher d'avoir une salle comme ça qu'on utilise essentiellement pour passer des bras cassés, mais aussi de faire en sorte que les gens passent plus longtemps. Ben, comme c'est un système qui est mixte, les médecins là-bas, ben, il y en a quelques-uns qui se sont dit « Parfait, écoutez, on va s'acheter une clinique. » Ils ont acheté une clinique avec une couple d'infirmières, puis ils se sont mis ensemble et ont créé ce qu'on appelle un centre médical de soins immédiats. Eux autres seraient juste des P3, P4, P5. Ben, le résultat, c'est que ces médecins-là, aujourd'hui, traitent autant de patients dans leur petite urgence.
Le volume augmente.
Ben, oui. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Ils traitent autant de patients dans leur petite urgence que l'hôpital local. Il y a un partenariat avec l'hôpital local qui va leur envoyer des patients quand ils sont surchargés. Ben, le résultat, c'est que les gens dans cette ville-là, ils attendent moins longtemps. Parce que, justement, on a des gens qui ont pu entreprendre quelque chose, qui ont pu essayer quelque chose, puis ça a fonctionné. Puis c'est un modèle qui est en train d'être répliqué un peu partout en France. Au Québec, si on veut faire l'équivalent, ben, le médecin, il faut qu'il dise, bon, voici ce que j'observe dans mon centre d'urgence. Là, il faut que le constat monte tous les paliers pour se rendre jusqu'au ministre. Il faut que le ministre fasse une décision, une politique nationale pour ensuite que ça descende et que ça soit implanté sur le terrain. ça n'a aucune flexibilité et ça donne justement des augmentations de temps d'attente qu'on a vues. Donc, essentiellement, c'est 41 minutes de plus que les Québécois passent à l'urgence depuis 2018.
Bien, si, juste avant que tu arrives, on en parlait, Renaud, puis je disais à Pierre, je dis, il y a deux manières de payer. Le système n'est pas gratuit. Soit tu le payes directement avec ton argent ou tu le payes avec ton temps. Comment on fait pour expliquer ça aux gens? Parce que quand on dit ça, c'est une notion qui est comme compliquée. Mais moi, je donnais l'exemple tantôt. Si vous êtes en arrêt de travail pendant un an de temps ou deux ans puis vous attendez une chirurgie du genou, là, c'est pour des gens des pertes de revenus qui sont bien plus grandes que le fait d'avoir payé. Là.
Bien, effectivement. Puis ça, c'est, je veux dire qu'on parlait de la garantie de soins il n'y a pas si longtemps, puis de Santé Québec. Bien, essentiellement, c'est un peu la même chose qui est là. C'est que souvent, on va se dire, oui, mais écoutez, on essaie d'utiliser notre système de santé pour que ce soit toujours à 90 ou 100. Le problème, c'est que la demande pour des soins de santé n'est pas exactement fixe. Là. Il n'y a pas 4,8 bras cassés par deux jours qui vont se passer dans une région donnée. Ça va varier selon la période de l'année, sur les événements. Ce qui fait en sorte qu'essentiellement, notre système est toujours, comme il n'y a pas toujours à 90 ou 100, mais il y a toujours des patients qui se ramassent à ne pas être traités. Puis il y a un coût à ça. Ce coup-là, c'est drôle parce qu'il y a des cas où le gouvernement du Québec le réalise. On a des patients qui sont sur la CSST et qui se sont fait opérer au privé, au frais de l'État, parce qu'à un moment donné, ben, le calcul est simple. Est-ce que ça coûte plus cher de payer la CSST à quelqu'un pendant 8 mois?
Oui, mais si on avait du privé, Renaud, si on avait du privé, mettons, pour des chirurgies rapides, là, mettons, tu dis une garantie, si en 90 jours, vous n'êtes pas vu par le système, ben, on vous transfère dans une clinique privée pour une chirurgie, par exemple.
Ben oui.
Ça pourrait être réalisable, là, et ça ferait en sorte qu'on remettrait du monde rapidement sur
mais ça se fait à plein d'endroits dans le monde.
Ça. Ben oui, mais ça, ici, ben on ne oui, ben veut pas le faire. On attend un an, deux ans, des genoux, deux ans, c'est commun, là.
Oh oui.
Ben effectivement, puis même avec ça, je veux dire, Santé Québec hésite. Là, le ministre avait annoncé qu'on allait avoir une garantie de soins.
Oui.
Écoute, on avait quand même la version Wish là, de la garantie de soins. C'était pas 90 jours, c'était un an d'attente. Mais malgré ça, Santé Québec est en train de trouver des moyens de dire, ben écoutez, c'est plus difficile à faire que ce qu'on pensait. C'est plus compliqué. On devait le faire au printemps, mais finalement, on va le faire d'ici quelques mois, à l'automne.
Ouais. Mais c'est pas
ça, malheureusement, ceux qui souffrent, c'est le patient.
Mais c'est pas un aveu d'échec pour Santé Québec. Depuis deux ans, eux autres, ils nous disent qu'ils vont tout améliorer ça, puis il n'y a rien qui s'améliore, là.
Ben, je pense qu'à date, effectivement, les chefs ne montrent pas que les choses s'améliorent. Puis je pense aussi que même si les choses s'amélioraient, on ne doit pas être satisfait d'une situation où on passe 5 heures à l'urgence. Une urgence, par définition, c'est quelque chose qui doit être réglé rapidement. Malheureusement, ce qu'on a au Québec, c'est pas quelque chose où on règle les choses rapidement. C'est plutôt quelque chose où on se fait mettre sur une liste d'attente, puis on se fait dire, c'est beau, t'es pris en charge, t'es sur la liste d'attente, puis un jour, on va pouvoir te voir. C'est malheureusement ça, que ce soit pour les services d'urgence, que ce soit pour les opérations, que ce soit même pour avoir un médecin de famille. Fait qu'on se ramasse justement à avoir un système qui est très centralisé, qui gère les choses.
Mais c'est une culture d'attente.
Mais exactement.
C'est une culture d'attente, là. On est toujours dans l'attente. On est toujours dans l'attente. C'est que les personnes âgées attendent la mort. On attend d'être pris en charge par l'État. On l'a vu, là, dans plein des affaires, c'est tout est à l'État, là. Donc, il faudrait changer toute cette mentalité-là. Les jeunes, les jeunes vont peut-être changer ça.
Bien, c'est clair. Mais parlant de tout à l'État, Renaud, je t'ai vu actif sur X assez tôt ce matin. Il y a des gens qui nous disent là, que le TGV, c'est la presse qui a réalisé que le TGV, ça a l'air que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. T'as pas l'air ben convaincu, là. Ça, c'est une lubie qu'on présente au... C'est un peu comme un genre de troisième lien canadien, un peu, là, le TGV. Ouais. Ça fait, je pense, depuis 1988 ou 87 que le fédéral, une fois de temps en temps, nous ressort ce projet-là, mais il n'y a rien qui avance jamais. Là.
Ben effectivement, puis je veux dire, c'est parce qu'à chaque fois, on fait des études, puis les études disent « Hey, ça a l'air super le fun, ça a l'air beau, ça va vite, mais ça va jamais être rentable. » Puis on fait une autre étude plus tard, puis ça dit un peu la même chose. Là, la différence, c'est que je pense que le fédéral est prêt à essentiellement subventionner chaque déplacement. C'est sûr que, écoute, si on voulait faire un TGV entre Coudjouac puis Iqaluit, puis qu'on mettait suffisamment de financement, je suis sûr que ça pourrait être rentable. Mais ça ne veut pas dire que ça va être économiquement rentable. C'est-à-dire que le coût pour les contribuables va être important.
Mais là, il essaie de...
C'est surtout ce que j'ai lu dans la presse ce matin. Je trouvais ça un peu lunaire. Parce qu'essentiellement, ce qu'ils prennent, c'est la brochure. Ils prennent les chiffres de la compagnie qui va faire le TGV, qui a eu le contrat pour faire le TGV, qui nous dit, ben oui, écoutez, si vous regardez nos chiffres à nous donner le contrat pour faire le TGV, c'est une super bonne idée. Je veux dire, c'est sûr, moi aussi, quand je lis la brochure pour le Club Med, ça a l'air d'être le plus bel endroit où passer mes vacances. Ça veut pas dire que c'est neutre. Puis et surtout, il y a certaines choses sur lesquelles je me questionne. Premièrement, la question du coût. On nous dit que ça va coûter 60 à 90 milliards pour faire un TGV. Je ne sais pas pour vous, là, mais la dernière fois que j'ai vu un gros projet au Canada qui a été faite à temps et dans les budgets. Ça fait quand même longtemps.
On a
des dépassements de coûts qui risquent d'arriver avec ça.
Ouais.
La deuxième affaire, qui est quand même spéciale, c'est l'analyse au niveau de l'achalandage. Essentiellement, d'après les chiffres, présentement, il y a à peu près 10 % des déplacements entre Montréal et Toronto qui sont faits en train. Ça augmenterait à 40 % soudainement avec le TGV. Je serais curieux de voir la méthodologie qui permet de backer ça, d'appuyer ça, de dire que soudainement, 30 % des gens vont arrêter de prendre l'avion, vont arrêter de prendre la voiture, ils vont juste prendre le TGV à la place. J'ai des doutes là-dessus. Puis il y avait une étude de McGill qui était sortie un peu plus tôt cette année qui mettait aussi des doutes par rapport à ça. Qui disait que peut-être les présidents d'achalandage sont assez optimistes. Mais la dernière chose aussi, puis ce qui est complètement oublié de toute cette analyse-là, ben, c'est tous les gens qui vont se faire exproprier. Parce que mine de rien, il ne faut pas l'oublier, là, quand le fédéral a essentiellement présenté son projet de loi budgétaire l'an dernier, ben, une des choses qui était dans le projet de loi, c'est de faciliter les expropriations, d'aller plus vite pour les expropriations pour le projet de train en vitesse. Mais moi, je dois avouer, si je pense à justement un agriculteur qui va voir sa terre être séparée en deux par un rail de train à grande vitesse, qui ne va pas nécessairement pouvoir franchir. Je sais, quand on parle d'un rail de train à grande vitesse, là, tu ne fais pas juste passer avec un passage à niveau. Il faut que tu aies un pont par-dessus, il faut que tu aies un tunnel en dessous. Pour beaucoup de gens, ça va avoir un effet absolument énorme sur leur qualité de vie, un effet négatif important sur leur qualité de vie. Puis j'ai pas l'impression que c'est pris en compte dans beaucoup de ces analyses-là, malheureusement.
On répète les erreurs du passé, hein? Mirabel, ils ont goûté avec l'aéroport aussi, donc on tenterait de... Puis j'ai hâte de voir, parce que là, si jamais les libéraux sortent de là, les conservateurs arrivent, eux autres, ils scrapent le dossier là, du TGV. Et c'est des milliards, on parle de 100 milliards, mais certains évoquent 150 milliards, 200 milliards. Ça va être à surveiller. Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal, c'est toujours un plaisir et toujours intéressant de t'entendre. On se reparle.
Merci beaucoup, Renaud.
Absolument. Bonne journée.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est la
ça
presse.
Ça a débarré sur le texto, Pierre. Les gens sont en feu. Là, ils nous racontent leur histoire à l'hôpital. J'en ai un qui nous dit « J'ai attendu 13 mois pour une opération à l'épaule. » 13 mois, ça se peut que tu ne puisses pas travailler pendant ce temps-là. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit que, je ne sais pas exactement ce que la personne a eu, mais elle vomissait du sang. Elle a déjà attendu 9 à 10 heures à l'urgence.
Carrément. Mais regarde, je pense qu'on pourrait ouvrir les lignes là-dessus.
Ouais, moi, je pense tantôt, là, à 11 heures, ça va être ça le segment. Racontez-nous votre pire expérience avec le système de santé.
Exact. Et sinon, ben des proches. Parce que des fois, tu accompagnes du monde aussi. Il y a des proches aidants, là. C'est pas drôle, là. J'ai conté l'histoire de la dame de 40 heures, mais elle accompagnait sa mère. Sa mère est hospitalisée depuis 5 semaines. Elle fakeait pas, mais elle a attendu quand même 40 heures à l'urgence. Voilà, voilà, voilà. Après la pause, François Charon, on jase de techno. Il est là, François, il revient de vacances. On lui parle.
Couture dans le mid. Radio X.